Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, êtes-vous prêts encore à me suivre, ou plutôt à suivre les créatrices espagnoles ? Ben, si oui, j'en suis ravie, alors allons-y. Eh bien, voici une justement qui n'a pas les pieds dans les mêmes sabots, même si ceux-ci sont principalement de confection, fabrication artistique. Il s'agit de Josefina de la Torre Milares, qui est née en 1907 aux Canaries, à Las Palmas, dans l'île nommée Grande Canarie. Elle était poétesse, novelliste, chanteuse lyrique et actrice. Alors, il faut dire qu'elle a baigné déjà toute jeune dans un environnement artistique et culturel, hein, que ce soit au sein de la famille ou dans l'environnement amical de celle-ci. Son grand-père maternel était lui-même déjà novelliste et musicien, et son frère, Claudio de la Torre, sera également novelliste et aussi dramaturge. Alors, pour commencer, elle composera d'abord de la poésie, et ensuite, elle apprendra la musique qu'elle interprétera au piano, au violon et à la guitare. Bon, on peut dire que ces matières furent ses premiers médiums d'expression, mais elle ne s'arrêtera pas là, puisque de la musique instrumentale, elle passera au chant et donc à la voix. Et du chant, bah, il n'y eut qu'un pas pour aborder la comédie, initié en cela par son grand-père, qui possédait un petit théâtre dans lequel il organisait des représentations. Or, ce théâtre, elle en reprendra par la suite la succession avec son frère Claudio. Alors, quand elle sort de ce cercle familial et amical créatif, eh bien, c'est pour partir avec son frère à Madrid afin de poursuivre ce qu'elle avait commencé chez elle, c'est-à-dire l'écriture, le chant et la comédie. Alors, dans cet autre contexte, elle rencontrera les artistes engagés de la génération 27, cette avant-garde espagnole dont vous connaissez maintenant, à force d'écouter La Voix des Arts, hein, du moins je l'espère. Elle fondera en 1946 sa propre compagnie de théâtre, la Comedia Compagnie Josefina de la Torre, et elle s'infiltrera petit à petit dans le milieu cinématographique, d'abord comme doublure de voix, puis comme actrice, jusqu'à collaborer même comme scénariste à l'adaptation cinématographique de l'un de ses romans. Alors, outre le cinéma, elle travaillera à la Radio Nationale et prêtera sa voix à l'émission intitulée « Au théâtre invisible ». Et ensuite, elle travaillera à Radio Madrid, collaborera à partir des années 60 à des séries télévisées, tout en continuant d'écrire. Et après une longue vie, elle décédera en 2002 à l'âge de 95 ans, l'année où elle recevra la croix de l'Ordre des îles Canaries. Alors, intéressons-nous un peu à ses productions. Qu'a-t-elle écrit ? Eh bien, elle aurait pris la plume déjà à l'âge de 7 ans et aurait commencé à publier dans une revue à partir de 13. Alors, elle éditera un premier livre en 1927, intitulé « Verses y estampas »,« Versets et images », qui semble être une série de souvenirs d'enfants et de jeux en bord de mer. Et ses thèmes de prédilection sont en lien d'ailleurs avec l'enfance, hein, aussi la solitude et la mort. En 1930, elle publie Poemas de la Isla, les poèmes de l'île. Alors, j'ai lu également qu'avec Ernestina de Champoursin, que vous connaissez maintenant puisque je vous l'ai présentée, elle fut l'unique femme à paraître dans une anthologie de poésie espagnole présentée par le poète espagnol, l'une des figures marquantes de la génération 27. Je citerai Gerardo Diego. Alors, elle écrit également des nouvelles et romans, plutôt des romans d'amour, dont la plupart seront publiés sous le pseudonyme de Laura de Comminges. Et d'autres, hein, publiés en 1954, intitulés « Souvenirs d'une star », qui nous emmène dans le milieu cinématographique en relatant l'histoire d'une actrice qui, malgré son succès, laissa tomber sa carrière, ou sur le seuil des ouvrages qui paraîtront dans une collection assez célèbre intitulée « La novela del sábado »,« La nouvelle du samedi ». Alors, en 1968 est publiée La Marche incomplète, et c'est en 1989 que son œuvre poétique complète sera publiée. Alors, il est vrai que ces femmes paraissent relativement libres à une époque, dans les années 20-30 du XXe siècle, où nous pourrions supposer qu'elles ne le seraient pas. Mais il faut dire que de gros progrès sociaux avaient été accomplis, que la guerre d'Espagne, à partir de 1936, remis en question. Et ces progrès, ces avancées n'ont pu être réalisées que grâce, en partie, à l'implication et au combat des femmes. Alors, souvenez-vous de nos passionnariats présentés précédemment, car c'est ainsi que la société espagnole de ces époques adopta des mesures juridiques plutôt révolutionnaires, comme l'égalité des droits pour tous, le droit au divorce, au mariage civil et surtout le droit de vote accordé aux femmes. Bon, ce qui n'empêchait pas les préjugés et obligeait quand même les femmes à des combats quotidiens pour affirmer leur droit à être des personnes au même titre que les hommes. Bon, à vrai dire, je ne pourrais citer toutes les femmes espagnoles qui ont à la fois créé et souvent en même temps milité pour changer la société afin qu'elle soit plus juste pour tous. Il y en a énormément. Beaucoup de ces femmes écrivaient en parallèle des essais, des romans ou de la poésie, et même des chansons, dont l'une d'elles, intitulée « El himno de los mujeres libres », l'hymne des femmes libres, justement écrite par une militante qui était poète et a délaissé l'écriture pour davantage se consacrer à ses activités de militante. Et il s'agit de Lucía Sánchez Saornil. Alors, j'avais mentionné le fait l'émission précédente que Carmen Condé Abellán avait publié dans une revue féministe « Mujeres Libres », ce qui signifie « femme libre hein. ». Il se trouve que Lucía Sánchez Saornil est l'une des fondatrices du mouvement et de la revue. Alors, qui est-elle? Bon, une militante de plus, hein, d'accord, mais aussi une poétesse. Elle est née, elle, en 1895. Elle n'est donc pas de la même génération que celle de ces femmes que je présente maintenant. Mais c'est une femme qui s'est investie suffisamment pour que soient respectés les droits de la femme afin qu'une voie leur soit ouverte vers la liberté d'action et d'expression. Alors, c'est une anarchiste, hein, donc plutôt extrémiste. Elle sera d'ailleurs secrétaire d'une organisation non gouvernementale mais à but humanitaire et libertaire qui a pour nom la Solidaridad Internacional Antifascista, Solidarité Internationale Antifasciste, et sera co-créatrice avec une doctoresse espagnole nommée Amparo Poch y Gascón et avec une avocate nommée Mercedes Coma Posada Guilén de cette organisation spécifiquement féminine qui est Mujeres Libres, dont le journal porte le nom. Alors, c'est une personne qui est issue d'une famille pauvre et modeste et qui rentrera dans le monde du travail assez jeune, ce qui ne l'empêchera pas de poursuivre des études à l'Académie des Beaux-Arts de San Fernando à Madrid. Alors, avant-gardiste, elle aussi, dans son art, la poésie, elle adhère à un mouvement poétique espagnol qui se nomme l'ultraïsme, dont la ligne n'est pas très précise, puisque ce qui compte avant tout, c'est d'apporter de la nouveauté, de sortir à chaque fois que possible de sentiers qui pourraient être trop bien battus sinon. Enfin, quoi qu'il en soit, elle publiera ses poèmes dans divers journaux avant-gardistes jusqu'à être davantage concernée par la politique. Et lorsque la guerre arrive, bah évidemment, elle se met en première ligne de la lutte antifranquiste et c'est là qu'elle deviendra secrétaire de la Solidarité Internationale Antifasciste et Mujeres Libres naîtra en 1936. Alors évidemment, à la victoire des nationalistes, elle aussi devra s'enfuir à l'étranger. Elle choisira la France, mais reviendra assez vite en restant dans la clandestinité à partir de 1942 et finira de toute façon ses jours en Espagne à l'âge de 70 ans en décédant d'un cancer. Alors je parle de cette femme surtout parce que c'est une figure active de la libération de la parole féminine. Et pour le clamer haut et fort, elle a écrit El himno de las mujeres libres, l'hymne des femmes libres, qui est le chant des femmes libertaires et anarchistes du mouvement. Et elle explique le choix du nom. Aussi, je vais vous lire ce qu'elle écrit, traduit évidemment en français. Donc, je le lis. Au mois de mai 1936, naquit la revue Mujeres Libres. Le choix de ces deux mots n'était pas un pur hasard. Nous voulions donner au mot mujeres, bon, qui veut dire femme, un contenu maintes fois nié. En l'associant à l'adjectif libre, nous nous définissions comme absolument indépendantes de toute secte ou groupe politique, cherchant la revendication d'un concept, femme libre, qui jusqu'à présent était connoté d'interprétation équivoque, qui rabaissait la condition de la femme en même temps qu'elle prostituait le concept de liberté, comme si les deux termes étaient incompatibles. Bon, c'est vrai que qualifier une femme de femme libre, ça signifiait qu'elle était plutôt de mœurs légères, bon, dans cette connotation péjorative. Bon, maintenant, ben justement, nous allons écouter ce fameux hymne de la femme libre. Et donc, place à El himno de Mujeres Libres, écrit par Lucia Sanchez Saornil. Alors, cette autre poétesse espagnole, Gloria Fuertes, qui est née en 1917, rien ne l'a prédisposée à devenir poète. En effet, elle est née dans un milieu où le quotidien accaparait pleinement le temps de ses parents, tous les deux de conditions très modestes, apparemment peu cultivées, ce qui n'empêche pas la jeune Gloria d'être attirée par les lettres, car elle commence toute petite à écrire des histoires qu'elle illustre elle-même. Si bien qu'elle publiera son premier poème à 14 ans, en suivant en parallèle de l'écriture des cours à l'Institut d'éducation professionnelle des femmes pour obtenir des diplômes afin de se préparer à aborder le monde du travail. Et ça le sera prioritairement pour des emplois spécifiquement féminins, tels que la dactylographie, la sténographie, la puériculture et l'hygiène. Et elle commencera d'ailleurs à travailler dans une entreprise en tant que comptable à l'âge de 17 ans, à la mort de sa mère. Enfin, malgré tout, elle suit son chemin de littératrice, de poétesse, puisqu'elle publie un an plus tard ses poésies dans un magazine pour enfants et qu'elle participe en parallèle à des récitals de poésie. Et elle écrira aussi son premier recueil de poèmes, publié en 1950, quand elle aura 33 ans. Alors, par nécessité alimentaire, elle continue de travailler comme secrétaire dans un bureau, mais continue aussi à publier des histoires et poèmes pour enfants dans une revue qui leur est destinée et dans laquelle elle est devenue entre-temps rédactrice en chef. Alors, une rencontre importante, affective et intellectuelle en la personne d'un poète essayiste nommé Carlos Edmondo de Ory la confortera dans sa voix. Et de plus en plus, elle collabore à des magazines pour enfants où elle publie toujours histoires, poèmes et dessins, notamment une bande dessinée mettant en scène une fillette de 9 ans et un gamin de 6 ans intitulée Coletas et Pelines, qui deviendra populaire auprès du jeune public. Bon, en quelque sorte, elle est devenue l'écrivaine pour enfants et s'arrangera par la suite pour organiser la première bibliothèque mobile à destination des enfants des villages. Et de plus, elle se liera à d'autres femmes, un groupe de femmes nommé Versos con Faldas, en quelque sorte vers et jupons, pour diffuser la poésie et la littérature dans les bars et cafés de Madrid. Mais elle ne s'arrêtera pas là, puisqu'elle participera aussi à des magazines pour adultes et elle fondera avec des collaborateurs une revue de poésie intitulée Arquero, qu'elle dirigera jusqu'en 1954, et elle présentera aussi sa pièce de théâtre intitulée Prometeo à l'Institut de culture hispanique, et elle en recevra même un prix. Et de fil en aiguille, elle continuera de progresser puisqu'elle reprendra des études à l'Institut international de Madrid, la bibliothéconomie, qui est un enseignement de gestion et d'organisation des bibliothèques. Et dans la foulée, elle étudiera l'anglais et finira par travailler à l'Institut comme bibliothécaire pendant 3 ans, jusqu'en 1961. Bon, elle a à ce moment 44 ans et obtient, grâce à son travail, la bourse Fulbright, du nom de son fondateur, qui est une bourse d'études américaine dont les subventions proviennent conjointement à la fois du département d'État des États-Unis, chargé des relations internationales, et du pays qui en fait la demande. Et cette bourse, paraît-il, est accordée sur la base du mérite. Alors j'ai lu que pour présenter sa candidature, il fallait justifier de 4 années d'études, de 2 ans d'expérience professionnelle et de la maîtrise de l'anglais. Et apparemment, Gloria Fuertes répond à tous ces critères, puisque cette bourse lui permettra de partir enseigner la littérature espagnole dans une université privée américaine, l'université Bucknell, située en Pennsylvanie. Elle enseignera encore dans d'autres lieux en Pennsylvanie, notamment au Bryn Mawr College, je prononce toujours aussi bien, qui est une université d'art réservée aux femmes. Et lorsqu'elle rentre en Espagne en 1963, à l'âge de 46 ans, c'est pour enseigner cette fois-ci l'espagnol aux Américains de l'Institut international. Alors elle recevra encore une bourse en 1972 d'une fondation, Juan March, pour la littérature enfantine. Et de plus, la radio et la télévision espagnole, la TVE, commence à diffuser des programmes où ses créations littéraires sont proposées, ce qui lui attire popularité. Et elle sera récompensée plusieurs fois pour son travail à la télévision. Bon, il semble que cette travailleuse infatigable ne cesse de créer, de se produire avec des récitals et des lectures et d'éditer, tout public confondu. Et sa pièce, « Las tres reinas magacé » est produite au théâtre Lava Pièce de Madrid en 1982 et ainsi de suite, et ce sera ainsi jusqu'à la fin de sa vie, qui surviendra en 1998, bon, suite à un cancer du poumon, à l'âge de 81 ans, et elle lèguera tout son argent à un orphelinat par la suite. Alors Gloria Fuertes, du fait qu'elle soit née autour des années 20 et est publiée dans les années 50, est considérée comme faisant partie de la génération 50, de ceux qu'on appelle les enfants de la guerre d'Espagne et qui sont marqués par un état d'esprit en lien avec le réalisme social de l'époque de l'après-guerre. Alors le poète Blas de Otero aurait été l'un des principaux représentants de ce que l'on appelle la poésie sociale. Alors elle est rattachée également au postisme, qui est la contraction de post-surréalisme, et correspond au mouvement littéraire d'avant-garde actif en 1945 et 1950, dont le poète Carlos Edmondo de Ory aurait été le fer de lance, suivi par d'autres comme Eduardo Chicharrón Briones, Fernando Arrabal, pour ne citer que cela. Et le postisme devait être la synthèse de tous les mouvements novateurs, avant-gardistes, soutenus précédemment. Alors, comment définir le travail artistique de Gloria Fuertes, que je ne connais pas et dont les traductions de poésie trouvent souvent peu d'intérêt de grâce à mes yeux? Eh bien, qu'en disent les spécialistes? Alors, en dehors de sa littérature et poésie enfantine, il est dit que l'humour et l'ironie teintaient ses œuvres lorsqu'elles traitaient de sujets universels comme l'amour, la mort, la douleur et la solitude. Il est dit également que, marquée par la guerre, elle soulignait systématiquement l'absurdité de celle-ci. Alors, je vais lire une phrase qui résume son travail, trouvée sur le site de l'Institut Cervantes. Alors, je lis. L'ensemble de l'œuvre de Gloria Fuertes se caractérise par l'ironie avec laquelle elle traite des thèmes universels comme l'amour, la solitude, la douleur ou la mort. Les métaphores, les jeux linguistiques et le caractère frais et simple qui donne à ses poèmes une grande musicalité et une cadence proche du langage oral se démarquent. Et son accent lyrique est l'un des plus personnels, authentiques et distinctifs des poètes contemporains. Bon, de plus, certains experts auraient souligné le fait, et donc je le lis encore, qu'elle aurait ouvert un espace poétique aux préoccupations des personnes sans voix, principalement les femmes, les travailleurs et les pauvres. Bon, il est vrai qu'elle était femme, née dans un milieu pauvre, plutôt défavorisé, et de surcroît, elle révéla ses tendances lesbiennes en vivant une histoire d'amour avec une hispano-américaine qu'elle avait rencontrée en 1953 à l'Institut International de Madrid. Donc, on ne peut pas dire qu'elle était dans le droit fil des